Alors, Bezrat Hashem, les cours d'aujourd'hui sont Parashat Vaishlach. Voilà, Vaishlach Yaakov Malachim, les Fanav et les Savachiv, Artsasir, Sededom. Yaakov, il envoie des messagers envers son frère Esav, son frère, Artsasir, à la terre de Sir, Sededom. Pourquoi on parle Artsasir, la terre de Sir, Sededom? Regardez, Esav, on dit que quelqu'un qui a la rancune dans son cœur, c'est une question même s'il est juif. Il y a une question s'il est juif. Parce que quelqu'un qui te fait quelque chose de mal, écoute, il y a Kippour. Et Kippour, tu essayes de pardonner tout le monde. Tu dis, Mechila, Mechila. Des fois, tu n'arrives pas à pardonner la première année, mais 2 ans, 3 ans. Après un certain temps, tu sais, tu fais passer les choses. Et la Gemara dit, celui qui ne pardonne pas, c'est une question sur son judaïsme. Il se peut qu'il fait partie, il fait partie des Givonim. Givonim. Qu'est-ce que c'est Givonim? Voilà. Les Givonim, ils étaient une nation qui sont venus se convertir à l'époque de Yeshua Ben Nun. Ils avaient peur des Juifs. Alors ils sont convertis. Après ça, on a trouvé que c'était toute la conversion était fausse. C'est rien qu'un complot là, rien que parce qu'ils avaient peur, alors ils voulaient se convertir. Ils ont fait Yeshua jurer de ne pas leur tuer. Mais donc qu'est-ce qui arrive? Le lendemain, quand Yeshua il trouve que tout ça c'est faux, il leur a dit, vous avez fait ça, je ne peux pas vous toucher maintenant, mais une chose, vous serez des puiseurs d'eau et des coupeurs de bois. Maintenant, ils ont travaillé dans une ville de Kohanim. Il y avait une ville que de Kohanim, la ville de Nov. Il n'y avait que de Kohen dans cette ville. Et ils ont travaillé pour ce Kohen. Ils ont puisé de l'eau et ils ont coupé de bois. Et le Kohanim payait au fur et à mesure qu'ils avaient besoin de l'eau et du bois. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Le roi Shaoul, à une certaine époque, quand David Amelech s'est sauvé là-bas, il y avait quelqu'un qui a parlé la médisance contre le roi David, comme quoi cette ville a aidé David contre le roi. Ils étaient contre le roi. Le roi Shaoul, malheureusement, il a envoyé des messagers pour tuer tous les habitants de la ville. Tous les Kohanim, ils étaient tués là-bas. Maintenant, après cette histoire, il y avait une famine 3 ans en Israël. Et David Amelech, il ne comprenait pas quelle est la raison. Tout ce qui arrive, il y a une raison. C'est pas le hasard. Il y a une raison pourquoi il y a une famine. Et voilà, Hachem lui dit, tu sais pourquoi la famine? Parce que ce gens-là, les Givonim, ils sont en train de prier pour moi de ne plus descendre la pluie pour l'âme Israël. Et pourquoi ils vont faire ça? Parce qu'ils n'ont plus de parnassa. Ils n'ont plus de parnassa. Pourquoi? Leur parnassa, c'était quoi? Travailler, couper le bois, vendre le bois qu'ils ont coupé, puiser de l'eau, vendre cette eau qu'ils ont puisée. Mais maintenant que toute la ville est tuée, ils n'ont plus de parnassa. Ils n'ont pas trouvé une autre parnassa. Alors ils prient Hachem faire du mal à tous les juifs. Et David Amère dit, bon, mais qu'est-ce que ça prend pour changer ce décret? Ça prend que tu vas chez eux, tu leur parles, et tout ce qu'ils te demandent, tu es obligé de faire. Donc, David Amère, il va là-bas, qu'est-ce qu'il va faire que vous allez changer d'idée? Ils ont dit une chose, tu vas nous donner les 7 enfants de Shaoul, on va leur tuer. Shaoul est déjà décédé dans une guerre, mais il a laissé des enfants. Tu lui donnes ces 7 enfants, on va leur pendre, tous. Il dit comment? Demandez d'autres choses, demandez de l'argent. Je vous donne la parnasse. Non, que ça. On veut prendre la vengeance de Shaoul. Mais ces enfants, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils vous ont rien fait. Non, on veut que ça. Il retourne chez Hachem et dit, voilà, qu'est-ce qu'ils veulent? Et Hachem lui dit, tu n'as pas le choix. Tout ce qu'ils te diront, tu es obligé de faire si tu veux enlever la famine. Il n'avait pas le choix. Il leur a donné les 7 enfants de Shaoul. Ils les ont pendus. Ils les ont pendus. Et c'est comme ça qu'ils sont calmés. Depuis, David Amelech a décrété qu'ils ne sont plus considérés comme juifs. Et tout juif qui fait de tels actes de ne pas pardonner à un autre juif, ça, alors c'est une question sur son judaïsme. Il se peut que sa mère n'est pas juive, il se peut que sa grand-mère n'est pas juive. Parce qu'un juif, à un certain temps, il doit pardonner. Il n'y a pas un juif qui ne pardonne pas. Quelqu'un t'a fait quelque chose de mal. Bon, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et à un certain moment, tu dois pardonner. Là, dans la paracha, il y a 22 ans que les deux frères se sont pas vus. Et ça va assurer qu'en quoi jamais dans sa vie a oublié que son frère le petit frère lui a pris les bénédictions. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé son pays Seir. Seir de ce quel mot? Sehar. Le cheveu. Pourquoi? Parce qu'il veut se rappeler toujours et ne jamais oublier que quand son frère est rentré pour prendre le berachot, qu'est-ce qu'il a fait? il a mis des peaux, des animaux sur ses bras, pour que quand son père lui touche, il dit, ah, tes bras sont poilus comme ton frère. C'est ça? C'est Ir. Jamais il a oublié que son frère, il a trompé son père en mettant le peau des animaux sur les bras et sur le cou. C'est ça? Il a appelé sa montagne. Il a appelé sa montagne, Atsasir, le champ où il y avait une montagne là-bas. Il a appelé ça Sédé Edom. Le champ rouge. Pourquoi il appelle le champ rouge? Le champ, normalement, c'est vert, c'est pas rouge. Pourquoi rouge? Le lentille. Ne pas oublier la vente de cette Bechora, de cette droit d'aînesse qui a été vendue pour un plat de lentilles à Adam, ce rouge-là qu'il a acheté. Alors, pour ne pas oublier cette vente, voilà, il a appelé son champ le champ rouge. Et tout ça, pourquoi? Pour ne jamais oublier qu'est-ce qu'il lui a fait son petit frère. Et 22 ans plus tard, son frère Yaakov retourne et a dit, ah, écoute, 22 ans, un frère qui n'a pas, même si tu es en dispute avec ton frère, 22 ans, tu n'as pas vu ton frère. C'est ton frère quand même, tu auras quelque chose. Ok, ça y est, il a des enfants, il a des femmes. Il revient maintenant, il veut demander pardon. Vaishlach Yaakov Malachim, Yaakov envoie des anges pour dire à Issa, voilà ton frère est en train d'arriver. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Je m'en fous. Qui vient? Moi je veux le tuer. Ça rien qui vient. Je l'attends, ça fait 22 ans que je l'attends pour le tuer. Vaishuvu Malachim. Les anges ils retournent, ils ne peuvent pas croire. Comment il dit ça? Après 22 ans, ils étaient. Alors ils disent à Yaakov, fais attention. Tu sais, un gars qui après 22 ans n'arrive pas à t'oublier et il veut te tuer. Ve'arbamot ishimo. Il prend 400 guerriers avec lui et c'est des hommes forts. Ça veut dire qu'il est prêt pour tout faire lui. Il est là pour se faire tuer et tuer. Va'ira Yaakov. Yaakov, il a peur. Il a dit, écoute, avant, j'avais pas de problème avec lui. Pourquoi? Parce qu'avant, il était seul. Mais maintenant, il a la responsabilité. Tu as 4 femmes. Il a 11 enfants. Écoute, c'est pas facile de prendre les responsabilités de toute une famille. C'est pas qui lui va contre lui. S'il va contre lui, ça va. Il est là pour se défendre et s'il se fait tuer, il se fait tuer. Mais il n'a pas peur pour lui, il a peur pour ses femmes et ses enfants et tout cela qui l'accompagne. Vaïra Yaakov. Yaakov va commencer à avoir peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des trois stratégies. D'abord, il se prépare pour une guerre. Il faut se préparer. Il ne faut pas dire, écoute, il va venir et je vais prier et je vais le faire fuir avec un souffle. C'est pas... Juste avant Israël. Dans la région d'Israël. Alors là, il se prépare pour une guerre. Il commence à faire des prières. Eloi avi Avram, velo avi Yitzhak, Amona, Yaomer Elai, Shuv l'Artzecha, Amotecha. Tu m'as dit de retourner. Qui c'est qui a dit à Yaakov de retourner? C'est Hachem qui lui a dit de retourner, dans le rêve. Il est venu dans son rêve et il dit, écoute, ça fait 20 ans que tu as Haran, c'est fini, il faut que tu quittes. Normalement, Haran, en combien de temps tu marches entre Haran et Israël? 17 jours. Là, il a quitté, après 20 ans, il a quitté, il est arrivé à la 22e année, 2 ans en route. Alors, vous comprenez que c'est pas toute seule qui vient. Avec 11 enfants, 4 femmes, des troupeaux. Tu sais, il faut que tu marches lentement. 2 ans, ça lui a pris une route de 17 jours. Alors, il a peur. Et il prie Hachem, tu m'as dit de revenir. Alors, regarde, qu'est-ce qui se passe? Prière. Et la troisième chose, cadeau. Pot de vin. Il lui envoie 440 animaux. Il va lui envoyer pour que ce rachat, il s'apaise un peu. Donc, nous lisons dans la paracha. Qu'est-ce qui se passe la nuit? La nuit, il dort, mais il dort pas bien. Tu sais, quand tu as un problème, tu dors pas la nuit, tu tournes, c'est ça? Et là, sauf si tu sais, il y a des gens qui s'en fichent de tout. Ou qu'ils ont une émouna très forte, ou qu'ils sont fous. C'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu as une émouna très forte. Tu dis, moi, je suis avec Hachem, 100%. C'est ça? Là, tu es bien. Mais tu peux dire aussi, tu sais qu'Hachem n'est pas avec toi et tu t'en fous. Parce que tu es fou. Ça veut dire ça? Regardez, Léavdil, Yonah, c'est un prophète qui se sauve d'Hachem. Hachem lui dit, va à la ville, je te montre, Ninive, et tu vas lui dire une certaine prophétie. Il dit, non, je ne vais pas là-bas. Mais je ne peux pas dire Hachem non, alors je me sauve d'Hachem. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une barque, un bateau, il va en pleine mer. Et ça, qu'est-ce qu'il fait sur le bateau? Il cherche que dormir. Laisse-moi tranquille, laisse-moi dormir. Il rentre en bas du bateau, dernier étage, ils commencent à dormir. Entre-temps, une tempête terrible. Le bateau bouge à gauche, à droite, avant, arrière, le bateau va s'écouler. Tout le monde cherche quoi faire et lui, il dort. Le capitaine, il cherche qu'est-ce qu'il y a sur le bateau, qu'est-ce qu'il trouve un homme en train de dormir. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Dis-moi, ça va chez toi ? Tu dors ? Tu n'as rien à faire dans la vie ? Regarde, quelle situation ! Il se réveille. Ah, je savais pas. Comment je savais pas ? Le bateau est en train de s'écouler presque. Il bouge d'un côté à l'autre et tout. Il doit démonter et descendre et toi, tu sens rien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire, tu t'en fous. Ça me regarde pas. C'est ça ? Alors, ou tu es un grand sadique avec une grande émouna, ou tu t'en fous de tout. Mais là, Yaakov, il n'arrive pas à dormir. Yaakov, il se réveille au milieu de la nuit. Il dit, c'est pas possible. Demain matin, je dois confronter mon frère. Mais qu'est-ce que je fais avec toute cette famille ? Je ne peux pas. Tout de suite, il se réveille au milieu de la nuit. Il y avait un grand fleuve. Il prend toute la famille. Regardez, il était tellement fort. Il a mis un pied sur un bord du fleuve et l'autre pied sur l'autre bord. Il a commencé à déménager la famille. Transférer pour que rien ne leur arrive. Alors, il a pris ses femmes, il a pris ses enfants, il a pris ses troupeaux. La Gemara dit comme un pan. Il se faisait comme un pan. Il mettait tout. Quand tout le monde en passait, lui, il est passé avec eux. Voilà tout le monde qui passe. Après, il dit, ah, attends, j'ai oublié quelque chose de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il a oublié ? Des petites jarres, des petites fioles en argile qui coûtent rien. Tu vas au magasin de dollars, tu les achètes. Ça coûte rien. Et lui, Bli Aynara, il est tellement riche, il n'a pas besoin de ça. Un tzadik, pour lui, un sou, c'est comme 10 000 dollars. Pourquoi ? Parce que quand le tzadik il reçoit quelque chose, le Arizal dit, quand tu possèdes un stylo, ça c'est un cadeau d'Hachem. Il faut que tu le comprends. Si tu casses le stylo, tu prends un stylo, tu le casses, ça veut dire que tu n'apprécies pas qu'est-ce qu'Hachem t'a donné. Pourquoi ? Alors il y a une chose. Ou tu es un voleur, parce que tu casses un stylo, ça ne te regarde pas, et là tu dis de toute façon, je vais aller à un magasin de l'art, je vais le voler. Qu'est-ce que c'est pour moi un stylo ? Rien. Ça, je vais aller à bureau en gros, je vais voler un stylo. Un montre blanc, un montre noir, un montre rouge. C'est ça, c'est pas important. Ou tu n'as pas d'appréciation. Dieu l'a dit, tout ce que tu possèdes, il faut que tu comprennes que c'est de Hachem. Quand ça se casse, seul, il faut pas que tu t'en fais. Ah, c'était escapara, c'était le moment de se casser. Mais que toi, tu fais pas attention à tes biens. Alors la Rizal dit, si tu fais pas attention quand Hachem te donne un cadeau, il ne va plus te donner. Et s'il ne va plus te donner, tu vas aller voler. Alors, la Gemara, elle dit une phrase qui paraît très grande comme phrase et qui fait bouleverser de gens qui l'entendent. Le tzadikim, leur argent est plus important que leur corps. La Gemara dit comme ça. Le tzadikim, mamonam chaviv yoter megoufam. Leur argent est plus important que leur corps. Comment, si c'est un tzadik, est-ce que je n'aurais pas dit le contraire ? Au contraire, je dois dire que leur corps, son corps du tzaddik, il est plus important que son argent. Mais Agmara dit non. L'argent du tzaddik est plus important que son corps. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Dit la Rizal. Parce que le tzaddik, quand tu lui donnes un objet, il possède des biens matériels. Est-ce qu'il est parti le voler ? Est-ce que l'argent qu'il a gagné pour acheter ces objets a été rangé avec rachash, avec le moindre de doux de gazelle ? Non, si c'est un tzaddik. Ça veut dire que son argent est cachère à 100%. Alors le tzaddik, il fait tellement attention à ce bien matériel qu'il possède parce qu'il sait que quand il se casse, ça va être très difficile pour avoir un autre. Ça va être des prières. Il faut faire attention que ça ne soit pas volé. Il n'y a même pas 1%, 0,0001 de doute de vol. Alors lui, il fait très attention. Le tzaddik, il fait très attention à ses biens matériels. Mais ça ne veut pas dire que le tzaddik apprécie le matériel. Au contraire. Il n'apprécie pas le matériel, mais une fois que le matériel arrive chez lui, c'est là qu'il va faire très attention parce que c'est un cadeau d'Hachem. Et là, Yaakov dit, j'ai tellement de l'argent, tellement de femmes, je peux me permettre, mais non. Si ces petits jars qui sont en argile, que je laissais de l'autre côté, c'est quelqu'un qui me l'a donné ça. Qu'est-ce qu'il m'a donné, Hachem ? Et la Gemara dit, din pruta, qui din mea, un sou, c'est comme 100 dollars. En Israël, il y a un proverbe, mais ce n'est pas un proverbe religieux, mais ça doit être sous le concept. On te dit, si tu passes dans la rue en Israël, et tu vois un sou par terre, et tu ne ramasses pas, tu ne vaux pas un sou. Si tu ne ramasses pas un sou de par terre, tu ne vaux pas un sou. De toute façon, il y a une ségoula qui est rapportée dans le livre, ségoula de Parnassa, quand tu passes n'importe où et tu trouves des pièces d'argent, il faut que tu le prends, il faut que tu le mets dans une pochette spéciale. Ségoula de Parnassa. Quand tu trouves un sou, 10 sous, et un dollar par terre, prends-le, mets-le dans un petit sac et garde-le toujours avec toi. Ségoula de Parnassa.
J'ai eu 25 sous dans le métro, je dis,
ramasse pas. Ah voilà, ça, tu aurais pu acheter le métro avec le 25 sous que tu as trouvé. Voilà, toujours que tu trouves des petites pièces monnaie, c'est ségoula. Ça, c'est ségoula de Parnassa. Tu le gardes et tu le mets dans une pochette à part pour que tu le gaspilles pas.
Moi, quand je vois de l'argent, je le ramasse et j'ai une raison. Je suis juif.
Qu'est-ce que ça veut dire ça encore?
J'ai le droit parce que je suis juif.
Ah non, qu'est-ce que non juif ramasse pas?
Non, parce que tout le monde sait, les juifs ils ramassent pas.
Tu appelles ça un samedi pour aller à la synagogue et tout, payer le 100 dollars.
Si tu trouves 100 dollars en marchant samedi à la synagogue, tu restes là-bas jusqu'à Motsé Shabbat. Voilà. Bon, on continue. Alors Yaakov, regardez, Yaakov retourne. Et quand il retourne en pleine nuit, qu'est-ce qui arrive? Il y a un malach qui le rencontre. Et là, on va se parler aujourd'hui de ce malach, de cet ange-là, que Yaakov rencontre. Et il va faire une guerre. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Est-ce que vous croyez que l'histoire ici, malach, c'est un petit... Vous savez qu'est-ce que c'est un malach? La Gemara dit la taille d'un malach, c'est comme d'ici au premier ciel. Et c'est quoi la distance entre ici le premier ciel que nous voyons pas, tout ce que tu vois c'est du bleu, tu sais pas même pas où ce bleu s'en va. 500 ans de marche. Si tu aurais pu marcher 500 ans, c'est la taille d'un malach. Tu sais combien de kilomètres c'est? Des milliers de kilomètres. Ça c'est la taille d'un malach. Alors tu veux me dire que dans la Torah on raconte, voilà, la nuit il était là, et Malach il vient, il enlace, ils font le quoi, wrestling. WWE, comment il s'appelle? WWF. C'est
World Wrestling Federation.
Wrestling Federation. Tu crois qu'il y avait la fédération de wrestling à l'époque de Yaakov Avinu? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand tu vous lisez, il faut comprendre le texte. Alors c'est vrai, il y a Pshat, il a vu Malach. Mais Malach, tu sais, il est immense. Oh, Yaakov était aussi grand et fort, c'est sûr, mais écoute, quand même, Malach.
Mais Yaakov, comment il mesurait?
Yaakov? Je ne sais pas, on va dire 5 mètres, combien? Okay. Je ne sais pas, mais mètres. On a. Non, 5.
5 mètres?
Oui, à l'époque, mon cher Rabbeinu, il avait la taille de 5 mètres. Aaron avait 5 mètres. On va dire qu'Yaakov était 5 mètres. 10 mètres? Mais c'est jamais comme Malach. Jamais comme Malach. Comment tu peux te bagarrer contre un malach? Qu'est-ce que c'est ce bagarre contre
le
malach?
Ouais, mais qui dit que le malach il est venu sous cette apparence-là? Qui dit qu'il n'est pas venu sous, comme plusieurs fois dans la
voilà, Chazak ou Baruch. Vaya avec. Qu'est-ce qu'il a dit la Torah? Vaya avec. Ish. Imo. Le malach se fait un homme. Le malach a pris la forme d'un homme. C'est ça? Et il est venu se battre avec lui. Mais ce malach-là, c'était qui? C'était le malach de Esav. Ça veut dire qu'avant qu'il va rencontrer le vrai Esav, il y a déjà ce malach qui s'attaque à Yaakov la nuit. Ça? Alors ce malach-là, il vient, il se fait comme un homme, comme on dit, fair. Ouais, fair fighting, tu sais, un homme contre un homme. Viens. Alors viens avec moi. Le malach essaye. Il essaie de toutes les manières. Il n'arrive pas. Toute la nuit, ils se sont enlacés. Quand ils font dans le... La lutte, enlacer et d'essayer de mettre un qui essaie de mettre l'autre par terre, d'Irachi, ils ont essayé de mettre un l'autre par terre et le gagnant c'est celui qui met l'autre par terre. Le malach a essayé avec toute sa force, il n'a pas arrivé. Et même s'il prend une force d'un homme, il a la forme d'un homme, comme il a la force du malach. Mais ça c'est aussi dur à comprendre. Ça veut dire ça. S'il a la force d'un malach, bon, Yaakov est fort, mais dis-moi, malach c'est malach. Vous savez que il y a un site. Ils ont parlé dans le site des gens qui sont partis faire le médium. Vous avez écouté du médium? Le médium, ça veut dire qu'ils s'assoient en cercle, ils obscurent la chambre, et ils mettent un verre au milieu de la table, et il y a une petite sorcière là qui parle au verre, qui commence à bouger, tac, 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 jusqu'à qu'elle fait descendre des âmes. Elle fait descendre des âmes et tu parles à ces âmes. C'est de la sorcellerie pure, on n'a pas le droit de le faire comme juif. C'est ça? Mais il y en a qui le font. En Israël, il y a des gens laïcs qui sont partis le faire. Il y a beaucoup qui les font. Mais il y a dernièrement, 4 pilotes. C'est des gens intellectuels, c'est des gens qu'ils ont cherché comme ça pour savoir et tout ça. Ils ont fait descendre des âmes. Après qu'ils ont fait ce médium-là, les âmes sont revenues dans ce monde pour venger d'eux. De 4, il restait un vivant.
Ça, c'est des gens qui sont morts déjà.
Non, c'est ça. Ça, c'est faire descendre des âmes des morts. Et leur convoquer de les emmener encore de retour. Qu'est-ce qui est arrivé? Ces gens-là, ils n'ont pas, ces âmes-là n'ont pas aimé parce qu'une âme n'aime pas retourner dans ce monde une fois qu'elle sort. Parce qu'elle voit la différence, c'est une grande différence. Tu crois qu'ici c'est le paradis, mais si tu arrives là-bas, tu dis ici c'est. Par rapport là-bas, c'est rien. Et quand tu vas là-bas, tu ne veux plus retourner ici. Alors, ces âmes-là, qui ont été forcées de descendre en bas, hein, ils ont vengé. Alors, un d'eux raconte, le dernier, il dit qu'un jour, il est parti voir son ami. Et l'âme est rentrée dans le corps de son ami, qui parlait dans le corps de son ami, et il y avait un bruit, un voix très bizarre. Alors il dit, arrête avec tes bêtises. Alors il dit, donne-moi ta main. Le gars, il lui a pris la main, avec l'aneshama dedans lui, il a pris la main, il lui a jeté contre le mur. Il a dit, il n'a jamais vu quelque chose fort aussi comme ça dans sa vie. Il lui a pris comme rien, comme une paille, qui est jetée contre le mur. Et 3 sont morts comme ça. Ça c'est une aneshama. Et tu peux te dire, qu'est-ce que c'est un ange? Qu'est-ce que c'est un ange? Alors on dit, même Yaakov était fort, tout, mais il faut comprendre un peu qu'est-ce que c'était cette lutte. Qu'est-ce que c'est cette lutte? Et à la fin de la lutte, qu'est-ce qui t'est arrivé? À la fin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Vers le matin, avant que le soleil se lève, l'ange voit qu'il ne peut pas contre Yaakov, il voit lui toucher ici, sur la hanche gauche plutôt, et il va lui donner un coup, ça va lui déplacer, et là, il va commencer à boiter. Il pourra plus marcher. Mais Yaakov ne lâche pas. Il attrape fort, il ne lâche pas. Tu ne bouges pas, toi. Il est encore sous douleur, il n'arrive pas à bouger, mais il ne lâche pas. Et là, l'ange, qu'est-ce qu'il lui dit? Non, il faut que tu me lâches. Il faut que tu me lâches. Pourquoi? Parce que cet ange-là, il a dû chanter à Kadosh Baruch Hu. Les anges, qu'est-ce qu'ils font? Les anges, ils chantent à Kadosh Baruch Hu. Et cet ange-là, c'était son moment c'était son moment de chanter. S'il rate le chant, il ne sait pas quand il va chanter une prochaine fois. La Gemara, elle nous explique, regardez comment le peuple d'Israël est chanceux. Un ange, on lui donne la chance de chanter, ça c'est tout le but d'un ange, de chanter et louer à Kadosh Baruch Hu. Il y a des anges qui chantent chaque jour. Il y a des gens qui chantent une fois par semaine. Il y a des anges qui chantent une fois par mois. Il y a des gens qui vont chanter une fois par année. Il y a des anges qui vont chanter une fois par 1000 ans ou 2000 ans ou 3000 ans. Cet ange-là, ce jour-là, après 138 ans qu'il n'a pas chanté, c'est arrivé son tour. Il a dit, je ne peux pas rater. Si je rate, je ne sais pas quand la prochaine fois que je vais chanter. Il a dit, je ne te lâche pas.
Alors, quand il a été défié, Yaakov, il savait qu'il devait chanter longtemps.
Mais est-ce qu'il savait l'ange qu'il était si fort? On va expliquer bientôt, on explique cette histoire. On va expliquer le sens de cette histoire. Mais c'est ça qui est arrivé, Et Yaakov lui dit, tu veux que je te lâche? Donne-moi une beracha. Donne-moi, toi tu es l'ange de Esav. Maintenant, vous êtes toujours en train de respecter et remuer cette question. Il a pris les berachot, il a pris les droits d'Enes. Dis-moi maintenant que vous êtes d'accord. L'ange lui dit, ok, plus tard, on va se rencontrer plus tard. Il dit, non, maintenant. Il lui a donné bracha, il lui a lâché. Là, l'ange a quitté. Yaakov boitait. Et le lendemain matin, quand je crois faire sortir le soleil, qui a guéri Yaakov. Ça, c'est l'histoire. Oui.
Pourquoi Yaakov est plus fort que l'ange?
Pourquoi Yaakov? On va expliquer maintenant pourquoi Yaakov est plus fort que l'ange. Maintenant, ça, c'est l'histoire, mais il faut comprendre l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas une histoire de lutte, ici. Alors, il faut comprendre. Alors, regardez.
Comment Yaakov est?
Esav représente une nation. Ishmaël représente une nation. Yaakov représente une nation. Alors, quand on parle l'ange d'Esav, c'est l'ange de tout Bnei Esav, les enfants d'Esav. Quand on parle l'ange de Ishmaël, c'est l'ange de tout l'Ishmaël. Et l'ange de Yaakov, c'est le Akosh Bahou et tout ce qui est divin. Maintenant, regardez. C'est quoi le. Un peu plus profond cette histoire. Alors, Rabbeinu Bechaye, il nous explique cette histoire. L'ange est venu quoi? Pas une lutte physique. C'était pas une lutte physique. Qui c'est qui est plus fort? Deux gars qui se mettent à table, allez, donne-moi ta main, qui c'est qui est plus... C'est pas ça du tout. C'était pas ça. C'est pas une question, il y a enlacé, ils ont essayé de se mettre un par l'autre en bas. Non. C'était une lutte spirituelle. Comment? L'ange est venu pour persuader Yaakov de laisser Akadosh Baruch Hu et de suivre les tentations de ce monde. Maintenant, Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il se détache de tout le matériel, il se met une pensée complètement spirituelle. Regardez. Vaishaer Yaakov, levado. Yaakov est resté seul. Est-ce que je ne sais pas que Yaakov est seul? Pourquoi la Torah qui lui dit qu'il est resté? C'est sûr. S'il a traversé toute sa famille d'un côté de la rivière, il est retourné seul. La Torah ne va pas dire quelque chose d'évident. Qu'est-ce que c'est seul? Il s'est détaché de son corps matériel. Il s'est fait seul. Ça veut dire qu'il a laissé l'âme seule, sans tentation matérielle. Il est pur maintenant que de pensée spirituelle. Que de pensée spirituelle. C'est comme ça que le Ibn Ezra, un des commentateurs du Chumash, il nous dit, quand Yaakov entend que son frère Esav vient pour l'attaquer, va ira Yaakov. Yaakov a peur. De quoi il a peur? De quoi tu as peur? Tu es fort. De quoi tu as peur? Il dit, Ibn Ezra, Yaakov, il a peur, peut-être durant ma vie, j'avais une mauvaise pensée. Peut-être j'avais des pensées qui ne sont pas bonnes. Et lui, Yaakov, c'est un homme pur, qui toujours pensait sur Akadosh Baruch Hu et sur la Torah. Shiviti Adonai, l'Enegdi, Tamid. Toujours Hachem était en face de Yaakov. Mais il a dit, peut-être, à un moment, j'avais des pensées qui ne sont pas selon la Torah. C'est ça? Alors, Vaïra Yaakov, il a peur. Là, Yaakov, Vaïcher Yaakov, Levado, il s'isole dans sa pensée et il se met complètement spirituel. L'ange est venu pas pour l'attaquer spirituellement, non. L'ange est venu pour le convaincre. Allez, laisse la religion, laisse les bêtises, ne sois pas trop fanatique, ne fais pas tout ça. Tu peux être un peu plus moderne, tout ça. Toute la nuit, il lui a donné des arguments pour suivre le matériel. Il n'est pas arrivé. Mais envers le matin, dit Rabbeinu Bechaye, et le Malbim le dit aussi, il y avait une chose qui a pu toucher Yaakov. Tu peux devenir spirituel en tout. Tu peux devenir spirituel avec tes yeux. Tu dis, moi je ne regarde plus de femmes. Moi je ne vois plus, quand je vois un Shabbat un péché, je ne veux pas regarder. Tu vois quelqu'un prendre la voiture. Laisse-moi voir, qui c'est? Ah, je connais. Tu vois des gens se bagarrer. Tu cours, allez, donne-lui. Tu cours, mais tu n'as rien fait. Mais tu as plaisir, tu as couru avec tes pieds. Tu peux faire des choses avec ta main. Tu peux faire tout. Alors quand on dit quelqu'un qui est devenu spirituel, ça veut dire qu'il a enlevé tout le matériel de lui. Alors, tu peux rendre spirituel tes mains. Tu dis, dorénavant, mes mains touchent que spirituel. Ils font que des choses spirituelles. Tu peux spiritualiser tes pieds. Moi, je vais aller que où il y a la Torah. Tu peux spiritualiser tes doigts. Tu peux spiritualiser tes yeux, ta tête, tout. Il y a un organe que tu ne peux pas spiritualiser. Quel est cet organe? La Brit Mila. La Brit Mila, tu ne peux pas la rendre spirituelle. Et pourquoi pas? Hein? Non, au contraire, elle ne peut pas être spirituelle. L'organe de la bride ne peut pas être spirituel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une époque où les gens ils étaient trop idolâtres. Il y avait une époque dans le monde en entier, pas que chez les juifs, dans le monde en entier, les gens ils étaient trop idolâtres. Qu'est-ce que c'est trop? Les gars voyaient une pierre, ils ramassaient, ils se prosternaient devant la pierre. Les gars ils voyaient un arbre, ils se prosternaient devant l'arbre. Les gens croyaient en tout. Pierre, arbre, sable, tous des oiseaux. Ils voyaient un oiseau voler. Ah, c'est Dieu. N'importe quoi. Mais Khachamim, ils ont dit, c'est trop. Comment tu fais ça? Il faut que les gens commencent à faire tchouva. Mais tu pouvais pas. Même si tu voulais faire tchouva, tu pouvais pas. Les gens, l'idolâtrie, tu la sentais dans l'air.
C'était quoi cette époque?
Hein? L'époque de nos rois d'Israël, le roi Ménaché. Le roi Ménaché, quand on lui a posé la question, comment toi, avec toute ta sagesse, tu es devenu idolâtre? Il disait à Ravachi, c'est lui qui a posé la question, qui c'est toi, si tu serais dans mon époque, tu aurais embrassé la poussière sur le pied d'idole. On ne peut pas. Il y avait une influence dure et terrible. Le Sanhedrin se sont ramassés.
Ils ne savaient pas encore.
Comment?
Il n'y avait pas assez de sagesse dans ce temps-là.
La sagesse était tellement grande, tu ne pouvais pas trouver plus de sagesse que ça. Tellement de grande sagesse. Ouais. C'est pour ça qu'ils ne comprenaient pas. Comment, avec toute la sagesse qu'Hachem te donne, tu vas te prosterner devant un morceau de bois?
C'était se prosterner pour faire un genre, merci Dieu pour m'avoir donné.
Non, 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 pas ça. Ils prenaient le bois comme Dieu. Pas ça du tout, pas du tout. Ils prenaient le bois comme Dieu. Ils prenaient le oiseau comme un Dieu. Alors les Sanhedrin sont réunis. Et ils ont fait, ils ont jeûné 3 jours. Et ils ont convoqué l'ange de l'idolâtrie.
Il n'y avait pas le Sanhedrin avant, non? Avant ça,
pourquoi? Tu parles au temps du roi d'Israël. Bien sûr qu'il y avait le Sanhedrin.
C'était pas le premier temps qu'il y avait...
Non, non, c'était avant le premier temps. C'était avant, c'était le roi d'Israël. Oui, c'était durant le premier temps, mais il y avait déjà le Sanhedrin. Il y avait le Sanhedrin toujours. 410 ans. 410 ans, il y avait le Sanhedrin. Là, quand les Sanhedrin, ils ont convoqué l'ange, vous savez que toute chose, il a un ange qui est en charge de ça. L'idolâtrie, c'est l'ange. Ils l'ont convoqué à l'ange, ils l'ont condamné à mort. Ils ont pris cet ange, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Là, dis à un juif aujourd'hui, va te prosterner devant, va en Inde et prosterne-toi devant la vache. Tu sais qu'est-ce qu'il va te dire? La vache qui rit, il va te manquer toi. C'est ça. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Même si tu es éloigné, tu te dis, qu'est-ce que tu racontes de bêtises? Moi, je vais me prosterner devant la vache, tu es fou toi. Mais c'est un gars non religieux. Mais il va te prendre comme un fou. Dis à quelqu'un, va prendre sortir dehors et va prendre un arbre prostrant devant l'arbre. Il va te dire, mais ça ne va pas chez toi. Va voir un psychiatre, toi. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que l'ange est mort. L'ange a été tué par nos sages. Et là, les gens ne sont plus le besoin ou ils se sentent mal de se prosterner devant n'importe quoi. C'est ça? Tu vois pas des gens qui vont se prosterner, même chez le goyim, ils vont pas se prosterner devant n'importe quoi, ça, sauf quelques-uns, c'est ça, ils ont. Mais là, ils ont dit, tu sais quoi, une fois qu'on est dans l'affaire, viens convaincre l'ange qui donne l'envie de sexualité à l'homme. On va le convoquer, on va le tuer. Encore, ils ont gêné 3 jours, ils l'ont convoqué. Quand ils l'ont convoqué, ils l'ont condamné à mort.
Pourquoi ce gêné 3 jours?
Comment? Parce que tu deviens spirituel. Tu deviens, quand tu jeûnes, okay. Tu perds le matériel, tu deviens plus spirituel. Là, ton jugement...
En 3 jours?
Oui, 3 jours.
Tu ne penses pas que tu perds un peu la tête?
Non, pas du tout. Il y a des gens qui perdent la tête après 24 heures, c'est vrai. Mais si tu es un grand sadique, tu dois jeûner 6 jours.
6 jours, tu jeûnes, d'après moi, tu vois, quelqu'un, après 3 jours qu'il a rien mangé, il me parle, je lui dis qu'il va manger.
C'est ça. Le grand tzadikim au Maroc, il y a 50 ans, et des gens saints, pas des grands tzadikim, ta grand-mère, tu demandes à la maison, tu vas voir qu'elle a jeûné 6 jours. Il y a beaucoup de femmes qui faisaient ça, des hommes qui faisaient ça.
Même les Indiens faisaient ça.
Les Indiens sont... Mais après, ils allaient tuer les cow-boys, qu'est-ce que ça veut dire? On parle pas de ça, on parle de quelqu'un qui veut devenir spirituel. On parle pas quelqu'un qui jeûne pour jeûner. C'est pas un jeu, tu jeûnes. Qu'est-ce que c'est?
C'est écrit dans la Torah qu'il faut jeûner pour.
C'est écrit dans le livre de Kabbal. Si tu veux avoir Ruach HaKodesh, tu veux avoir l'esprit divin, et bien avoir une bonne réflexion et vraie, tu jeûnes 6 jours d'affilée. Attention! C'est pas que tu manges la nuit. 6 jours d'affilée.
Pas boire, pas manger, rien.
Pas boire, pas manger, tu peux respirer.
Ah.
Respirer, tu peux, personne n'entend.
Même à ça.
Non, tu peux respirer normalement. Mais tu manges pas, tu bois pas. 6 jours. Mais aujourd'hui, regarde, on te dit Kippour déjà, tu commences à réfléchir 2 fois. Hein? Et dès que tu es dans Kippour, tu commences à compter les heures. Allez, le chauffard. Dès que le chauffard sonne. C'est ça, exactement. Mais c'est pas comme ça, Rabotai. Mon cher Abbé, on n'a pas mangé, n'a pas bu. 40 jours et 40 nuits pour devenir comme un ange. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas fait le ramadan, l'abdil et le faire de l'autre. Amabdil, Bekon, Shloko, Ben Atamel, Ator, Ben Kol, tout ce que tu veux, c'est ça? 40 jours, 40 nuits d'affilée. C'est pour ça qu'il est devenu comme un ange. Chetio le Mala Elohim, il était moitié ange, moitié homme, mon cher Abenou. Il ne pouvait plus vivre avec sa femme après. Mais là, le Sanhedrin, quand ils ont pris cet ange, ils l'ont condamné à mort. Ils ont dit, on ne va pas le tuer tout de suite, demain. Attends un peu, on a tué hier l'ange, pas tout de suite. Voilà. Le lendemain, dans le tribunal, plein de femmes, plein d'hommes qui viennent, Ah, mon mari ne veut plus être avec moi. Et l'autre, il dit, tu sais, les poules, chaque jour, il met donc 4 œufs, 5 œufs. Là, j'ai rien. Parce que la poule ne voulait plus être avec le coq. Et les hommes ne voulaient plus avec les femmes. Et si les hommes ne vont plus être avec les femmes, et les poules ne vont plus avec les coqs, et la vache ne va plus être avec le taureau, c'est la dernière génération, ton monde est fini. Il n'y a pas la procréation. Là, ils ont compris une chose. Cet ange-là est important. Mais cet ange-là est trop fort. Il faut faire quelque chose pour l'affaiblir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont seulement aveuglé. Aveuglé. Ils ont mis un peu de sable dans les yeux, ils l'ont renvoyé. C'est pour ça que vous allez comprendre. Dans le Talmud, il y a des histoires qui te font dresser les cheveux. Comment? Il y a une histoire que des hommes allaient avec leur mère. Des hommes allaient avec leur sœur. Ils prenaient leur sœur et ils allaient au lit. C'est normal ça?
Aujourd'hui,
Chas v'Shalom.
Non, je veux dire dans d'autres nations.
Mais ça, c'est des cas isolés. On parle couramment. On parle couramment. Si la Torah te dit ne prends pas ta sœur, ne prends pas ta tante, ne prends pas ta mère, qu'est-ce qu'elle a besoin de dire ça? Tu regardes ça, quand tu lis ça dans la Torah, dans la paracha, tu dis mais qu'est-ce que la Torah a besoin de me dire ça? Mais oui, monsieur. Parce qu'à l'époque, c'était très courant de prendre sa mère, sa sœur, sa tante et tout ce que tu veux. La Torah t'avertit. Aujourd'hui, tu le vois comme dingue. Pourquoi? Parce que cet ange-là est déjà affaibli. Mais il est toujours là. On a besoin de lui. Ça veut dire que tu peux te rendre spirituel. Les mains, le pied, les yeux, tes oreilles, ta tête, tes cheveux, tout ce que tu veux. Un organe ne peut pas devenir complètement spirituel. C'est quoi? La brique. Si tu la rends spirituelle, ça veut dire que tu ne veux plus procréer. Tu ne veux pas avoir des enfants. Tu ne veux pas avoir une femme. Tu ne veux plus continuer. Alors Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu spirituel au complet. L'ange n'arrivait pas à le bouger, ni à gauche ni à droite. Il lui donnait des envies, il lui donnait ça, il lui donnait ça. Rien, rien. Des tentations, laisse, ne sois pas trop fanatique. Ça. Tout ce qu'il disait, l'ange, il faisait passer, 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 passer. Mais vers le matin, quand l'ange est arrivé au nerf sciatique, qui est juste à côté de la brite, là l'ange a touché un point très sensible. Il lui a déplacé par là-bas. Pourquoi? Parce que Yaakov se marie avec deux sœurs. Il a dit voilà, là-bas tu as fait une faute, tu ne pouvais pas te marier avec deux sœurs. Il lui a bougé, il lui a déplacé, ça veut dire qu'il a trouvé le point faible, le seul point faible. Il boitait, selon le rabbin Oubechaye, il a dit que ça va causer le viol de sa fille. Sa fille, il va rentrer en Israël tout de suite après, et sa fille va être violée à cause de ça. Ça, c'est le déplacement de cet ange qu'on lit dans la Torah. Mais pour vous dire, voilà, Yaakov, il essayait, ça c'était un point faible. Qui veut dire, un point faible d'un homme, c'est quoi? C'est la Brit Mila. La Brit Mila! Mais qu'est-ce qu'on lui sort de là? Yaakov, il a essayé de se rendre pur au niveau de quoi? De la pensée. Quand tu te rends pur dans la pensée, il est très dur pour le Yetzer Hara venir te déplacer. Quand tu joues ou quand tu n'es pas assez fort, le Yetzer Hara peut t'attraper sur rien du tout. Mais quand tu te rends un peu spirituel, c'est là que le Yetzer Hara a du mal, mais il va t'attraper sur un point faible. C'est quoi le point faible? La Brit Mila. La Brit Mila. Et là on dit, comment on peut surmonter cet ange? Comment tu peux? En gardant la pensée pure. Nous lisons deux fois par journée, si pas quatre. C'est quatre. Mais on va dire que tu es minimum toi, alors tu es deux. Un le matin, un le soir. Velota turu, achare levavchem, vachare ennechem, asher atem zonim achrem. Ne suivez pas votre cœur et vos yeux que vous qui vous font pécher. C'est ça? Regardez l'ordre du verset. Velota turu, ne suivez pas votre cœur et vos yeux. Est-ce que c'est ça l'ordre qu'il a dû avoir dans le verset? Normalement, il fallait dire, ne suivez pas vos yeux et votre cœur. D'abord tu vois, ensuite tu penses. Mais là, le verset dit, ne suis pas ton cœur et tes yeux. Au contraire, ne suis pas tes yeux qui ont vu quelque chose, tu as vu une belle femme, et là tu commences à penser, ah, j'aimerais la connaître cette femme, tout ça. Le cœur il commence à faire des points. Mais d'abord tu as vu. Ah, pourquoi la Torah dit le contraire? Non. Parce que toi, tu sais qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'est-ce que tu penses. Qui veut dire? Toi, tu vas chercher voir dans la rue quelque chose que tu as pensé. La nuit. La nuit, tu penses, ah, j'aimerais rencontrer une belle fille, une belle femme, tout ça. Tu penses. Le lendemain matin, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises tes jumelles. Et tu regardes jusqu'à ce que tu vois la femme. C'est pas la vue qui est venue en premier. C'est la pensée qui est venue en premier. Velotaturu, si tu n'as pas une mauvaise pensée, tu vas pas voir. C'est quand tu pensais, c'est là que tu vas voir. Tu cherches à voir. Tu commences à... Alors pourquoi tu regardes cette femme? Tu peux... Chaque femme qui tourne, tu... Qu'est-ce qu'il y a? Parce que la nuit, tu avais des mauvaises pensées. C'est ça, sur cette femme. Sur une femme, tu sais pas quelle. Sur une femme. Et là, tu commences à chercher à regarder. Quelqu'un qui ne pense pas, il va pas chercher à voir. Il se peut qu'une femme va passer juste à côté de lui. Si tu conduis, tu vas pas fermer les yeux, tu vas rentrer dans un poteau. C'est vrai ou pas? Tu conduis. Et là, juste en face de toi, il y a une femme. Ou juste à côté. Tu n'es pas obligé de regarder le côté, qu'est-ce qu'il y a, c'est ça? Mais pour te dire, il se peut que tu vois. On ne dit pas qui. Il se peut. Mais vous savez, qu'est-ce qu'il dit de Sefer Hassidim? Même si tu vois la plus moche de femme, mocheté du monde, il faut dire à Hachem, pourquoi tu m'as donné cette occasion? Pourquoi? Et à plus forte raison, si tu vois une belle femme, en plus qu'il faut dire à Hachem, pourquoi tu m'as mis dans cette tentation? Ça, mais il ne faut pas que tu cherches à penser. Tout de suite, il faut que tu enlèves cette pensée. Vous savez, qu'est-ce qui enlève une pensée? Tu as une mauvaise pensée. Qu'est-ce qui enlève cette mauvaise pensée? Tu te mets sur tes orteils du pied. Tu te fais mal. Aïe, aïe, aïe. Le cerveau n'est pas capable maintenant de penser sur la femme parce qu'il est trop occupé avec la douleur qu'il a sur les orteils. Comme ça, il dit le Maïmonide. Tu penses sur une femme, tu te mets sur les orteils. Comme ça, ça fait mal. Ça fait mal. Et tout de suite, tu n'arrives pas à penser deux choses.
Quand on dit Ach, qu'est-ce que c'est Ach?
Ach, tzadikim edush, mechash, vush, remet panecha, c'est ça. Bon, il dit ici, regardez, on parle toujours la pensée au niveau, c'est purifié au niveau de la pensée. La Gemara nous raconte Masechet Shabbat. Maaseh bechassid echad, il y avait un homme pieux qui s'est promené dans son petit jardin Shabbat. Il avait de belles arbres fruitiers et tout ça, de beaux arbres fruitiers. Il se promène et regarde, qu'est-ce qu'il voit? Dans la muraille qui entourait la bâtisse, le champ et tout, il y a un trou. Et là, il pense. Mais le trou là, il y a des renards qui peuvent rentrer manger le raisin. Il y a toutes sortes d'animaux qui peuvent rentrer, des souris, tout ça. Il pensait, mais il faut que j'arrange ce trou, il faut dimanche j'appelle tel et je... Il se réveille comme ça, en se parlant. Mais qu'est-ce que je suis en train de penser, c'est Shabbat? Est-ce que Shabbat, tu as le droit de penser sur des choses comme ça? Il a fait un éder, puisque je pensais Shabbat, arranger ce trou, il a fait un éder de ne jamais arranger ce trou. Jamais. Ce trou qui reste comme ça. Il y a des renards qui rentrent, des souris, de tout ce que vous voulez, qui rentrent par là-bas, il n'arrange pas le trou. Pourquoi? Parce qu'il a pensé Shabbat. Il a... D'abord, je vous demande une question à la RIC. Est-ce que c'est interdit de penser sur quelque chose comme ça Shabbat?
Non.
C'est interdit de... Parler.
C'est comme tu travailles.
C'est interdit, non. C'est interdit de parler. Tu n'as pas le droit de dire à ta femme, ah, tu sais, il y a un trou là-bas, il faut que j'amène monsieur X qui l'arrange le trou. Ça, c'est interdit de dire Shabbat. Parce que c'est Shabbat. Comment tu parles de ça, Shabbat? Mais si tu penses, il n'y a pas de problème. Mais si tu es un homme pieux, tu ne penses même pas.
On a appris ça dans le Tania.
Dans le Tania?
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle dit, ça va?
Tout le Tania, ça parle vraiment d'une phrase. C'est-à-dire, c'est tellement proche de toi que c'est dans ta bouche, dans ton cœur, dans tes pensées.
Beficha ou bilvavcha, la asoto. Beficha, avec ta bouche et avec ton cœur.
Un exemple, c'est on va dire, si on tourne le coin de rue, on voit une fille, elle est nue ou quelque chose.
Oui.
Et on ne regarde pas.
Oui.
On est acquitté.
Oui.
Puis, une fois qu'on regarde, et on sait qu'on a. Et notre cœur, il nous dit, allez, vas-y, regarde une autre fois. Et là, tu regardes, là, c'est là où tu es puni. C'est là où tu as fait la mauvaise chose.
Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Ça veut dire que tu as déjà. Tu as tourné la rue, tu voulais pas voir cette femme, mais elle était dans ton chemin, alors tu t'es retourné.
Oui.
Et ta tête, elle a dit, vas-y, rien que regarde une fois.
Ton cœur.
Ton cœur, il te dit, vas-y, regarde. Elle est belle, vas-y, elle est nulle, tu vois pas la voir.
Mais est-ce qu'elle était belle en vérité?
Non, je te dis, avec un exemple.
Ah, ok. Non, je veux savoir dans ton exemple.
Ah, non.
S'il n'était pas belle, la punition est double. Parce que là, vraiment, tu as regardé quelque chose qui n'est pas beau.
Non, mais ça,
tu as raison. C'est ça qu'on a dit avant. Quand ça passe devant toi et tu n'as pas fait attention, qu'est-ce qu'on ne va pas te punir? Mais quand tu commences à faire attention, c'est là que tu vas payer. Ça. Là, ce chassid, là, retournons à cette histoire, ce chassid, il a dit que jamais, il a fait un éther de ne jamais réparer ça. Il avait un miracle dimanche. Il avait un miracle dimanche. Qu'est-ce qu'il y avait un miracle? Un arbre a poussé juste là où il y avait le trou. Et cet arbre, le tronc de l'arbre, a bloqué le trou. Il n'avait pas besoin de le réparer. Pourquoi? Parce qu'il a pris sur lui de ne pas réparer ce trou à cause qu'il a pensé Shabbat. Et comme c'est un chassid, l'Agmara dit un homme pieux ne pense pas de telles choses Shabbat. Tu ne penses pas. Voilà. Tu veux te purifier la pensée? Commence par Shabbat. Les femmes, un peu, c'est difficile. Un homme, c'est un homme. Tu peux dire qu'est-ce que tu veux, c'est ça? Pourquoi vous croyez dans des mariages que le rabbin, ils exigent la méritza? Mais ça y est, mais tu n'es pas contrôlé. Contrôle-toi un peu. Allez, tu vois, on peut s'asseoir ensemble. Tu peux danser les danses séparées. Tu veux, c'est pas. Mais dis-moi, tu es un homme ou pas? Tu t'assois à table, il y a des femmes. Et surtout des femmes, Bliaynara, s'ils sont en été, ils veulent un peu de l'air, ils sont toutes, c'est ça, c'est ça. Ne me dis pas que tu es sadique. Si tu arrives à ce niveau d'être avec une femme nue à table, moitié nue à table, et tu n'arrives pas à la voir, vraiment, toi, tu dois rentrer directement à la Yeshiva.
Exactement.
C'est ça? Alors, c'est impossible. Alors, on ne va pas commencer par ce niveau. On ne va pas commencer à ce niveau. Commence un peu avant ça. C'est quoi avant ça? Shabbat. Voilà un homme pieux qui pensait se faire chaque Shabbat. On ne va pas dire qu'on va commencer à donner d'arim. Mais commence à purifier ta pensée Shabbat. Je ne pense plus au devoir. Je ne pense plus à l'école. Je ne pense plus au travail. Je ne pense plus à ceci, à la voiture, à ceci, à cela. Shabbat, c'est une journée sacrée pour la Torah. Je pense que Torah. Je prends que des livres de Torah. Je m'investis que dans la paracha. Je veux comprendre le texte. Je veux comprendre la Gemara. Je veux comprendre ceci. Ça, c'est un début. Là, tu vas voir. Kolam kadesh tatsmo lemata, tout ce qui est celui qui commence à se sanctifier un peu, mais kachimoto lemala, du ciel, ils vont lui verser encore et encore des kedusha pour qu'il puisse avoir plus de kedusha que Shabbat. Il va avoir la kedusha plus. Mais commence quelque part. Les femmes, on a dit, c'est très difficile. À moins que tu aies sadique, tu veux commencer à ce niveau, mais c'est un peu difficile ce niveau. Maintenant, on dit que un grand chassid, il a dit à ses élèves, vous voulez vous échapper et purifier la pensée de Yetzara? Prenez le Yetzara comme votre ennemi, ennemi juré. Et voyez, chaque fois que le Yetzara vous apporte une mauvaise pensée dans la tête, voyez quand vous suivez votre ennemi, le Yetzara, il vient avec une hache et il veut vous couper la tête. Et quand tu as une mauvaise pensée, non, il est en face de moi, il va me couper la tête. Tout de suite, vous allez voir de la peur que vous avez, vous n'aurez plus la marchava ra'a, les mauvaises pensées. Il y a un chassid, après une semaine, il vient chez son Rav. Il dit, Rav, j'essaie de le faire, ça ne marche pas. Chaque fois que j'essaie de m'imaginer avec une hache, ça ne marche pas. Il dit, parce que tu n'as pas de tête, il t'a coupé déjà la tête. Comprends? Tu dois t'imaginer des choses.
Ne pas créer un problème psychologique. Exemple, à chaque fois, on se dit, le Sahara, on pense qu'il y a deux personnes, le Sahara et le Sahara.
C'est pas un problème psychologique, c'est la réalité. Tu as deux anges qui t'accompagnent chaque jour du soir, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et à droite et à gauche, à celui de droite c'est Yetzer HaTov, celui de gauche c'est Yetzer HaRa. Et ils sont là en train d'accompagner, de pousser, chacun pousse de son côté. Le Yetzer HaTov vient ici, le Yetzer HaRa vient ici. Tu n'es pas bipolaire, tu n'es pas fou, tu t'imagines pas. C'est la réalité, tu as deux anges qui te poussent. Qu'est-ce qui te fait des envies? Des fois tu as des envies à faire ça, qui c'est qui tend ces envies? C'est le deux Yetzer. Le deux penchants qui sont en toi. Un qui te penche vers la droite pour le bon, un qui te penche vers la gauche. Et il faut savoir qu'ils sont en lutte constante, les deux. C'est ça? Alors, voilà, on continue.
J'avais quelques questions sur ce que vous avez dit maintenant. Vous voyez, quand on fait du mal à quelqu'un, à une personne, on a le temps de penser au mal qu'on a fait à la personne. Donc, on a le temps de revenir sur nous-mêmes.
Oui.
Mais quand on fait quelque chose de mal dans la religion, par exemple,
je n'ai pas compris la question. Tu parles maintenant,
oui.
Comment pardonner à quelqu'un?
Non, comment nous-mêmes. Parce que quand on fait une faute à quelqu'un, par exemple, je vais faire du mal à une personne. Là, quand on va être seul à la maison, on va penser à pourquoi j'ai fait ça, il faut que je travaille.
Ok, ça, tu parles de mal. Nous, on parle maintenant. Toi, tu reviens au début du cours. Tu reviens à la question de comment on pardonne. C'est ça?
Non, pas du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça c'est à savoir ce que vous avez dit maintenant. Vous avez à côté le Yetzeradara, le Yetzeratov, n'est-ce pas? Maintenant, quand nous on fait une. Par exemple, je veux le frapper, le penser, oups, je suis en train de la maison, pourquoi j'ai fait du mal? Mais il n'est pas avec moi en ce moment.
Oui, ok.
Mais là, par rapport à Hachem, quand on fait une erreur, on n'est jamais seul.
Ça, c'est le concept de la Teshuvah. Quand tu as déjà fait l'acte, il n'y a plus de pencher. Tu t'es penché déjà, à gauche ou à droite. Après avoir penché, maintenant c'est le concept de la Teshuvah qui rentre en jeu. Maintenant que tu as fait déjà l'action, ils vont plus te pousser. Tu as dû faire quelque chose, bon ou mal. Tu l'as fait ou tu l'as pas fait. Une fois fait, si c'était mauvais, mal, ça veut dire que tu as écouté ton mauvais penché. Mauvais penchant. Si tu as écouté ton mauvais penchant, maintenant que tu regrettes, c'est sûr, comme un juif, tu auras des remords. Et c'est Yetzera qui te parle maintenant. Pourquoi tu as fait cela? Tu as dû pas le faire. Et si tu as des remords, c'est très bon, c'est excellent. Mais il faut que tu écoutes le Yetzera Tov. Qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce que il faut que je fasse maintenant? On fait la Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah? Dépend qu'est-ce que tu as fait. Va demander, va lire. Chaque chose, il a sa Teshuvah. Ça, c'est très bon. Mais ça, c'est après l'action. Nous, on parle avant l'action. Il y a deux penchés. Un qui penche à droite, un qui penche à gauche. À qui j'écoute? C'est à toi. C'est lui le choix. C'est justement lui le choix. Ça?
Il faut écouter à celui qui parle, pas à celui qui crie.
Voilà, celui qui parle pas, normalement, la Gemara dit, c'est un yeled, c'est un enfant miskin. Et celui qui parle beaucoup, c'est un vieux qui est malin. Le Yetzer Hara, il est avec toi depuis ta naissance, jusqu'à l'âge de 13 ans. Il est tout seul, il a le temps de t'embobiner la tête. Le Yetzer Hara Tov, il vient que le jour de ta bar mitzvah. Ça veut dire que l'autre, il avait déjà 13 ans de te remplir la tête avec toutes sortes de choses. Que c'est que à ta bar mitzvah que le Yetzer Hara Tov, il vient. Qui Yetzer Leva Adam Ra Mineurav. Le Yetzer Hara, il vient depuis sa naissance. Tandis que le Yetzer Hara Tov, il est présent que après. La bar mitzvah, le jour de la bar mitzvah. C'est pour ça que quand tu dis la bar mitzvah, écoute, tu deviens responsable. Avant, on ne pouvait pas te juger parce que tu avais un seul penchant qui est le mauvais. Et c'est sûr que tu fais des bêtises avant la bar mitzvah, mais c'est encore compréhensible parce que tu n'avais pas quelqu'un pour te dire « va l'autre côté, va l'autre côté ». Tu n'avais qu'un seul. Et c'était dur. Lui, c'était malach, toi, tu es un homme. Mais tu n'es pas Yaakov Avinu. Yaakov était capable. Mais il y a des tzadikim qui sont capables. Il y avait un grand tzadik qui s'appelait Rav Yonatan Apshitz. Le Rabbi Yonatan Apshitz, il était tzaddik depuis sa naissance. Vraiment, c'était un enfant, tu voyais qu'il n'a pas de Yetzara. À sa bar mitzvah, on lui a posé la question, comment tu as pu surmonter ton mauvais penchant? Durant 13 ans, avant que le Yetzara Tov se présente chez toi, qu'est-ce que tu as dit à le Yetzara qui te laisse tranquille comme ça? Il dit, je lui dis une chose, il y a une halakha. Quand quelqu'un vient au tribunal et dit, écoutez, il m'a fait du mal, on lui dit, tu peux rien dire. Va l'emmener à lui, à celui que tu passes, ou celui que tu parles, et tous les deux ensemble, tu présentes ton cas. Tu n'as pas le droit de présenter ton cas devant un tribunal avant que l'autre partie soit présente. Alors, le rabbin Yonatan Apshitz, j'ai dit, moi, je suis le juge. Parce qu'il faut que j'écoute ou mon mauvais penchant, ou mon bon penchant. Mais quand le mauvais penchant, il me dit, va là-bas, va faire, vas-y, avance. Je lui dis, toi, tu es seul, attends. Quand l'autre il va venir, le bon il va venir, je vais juger entre vous deux et je vais choisir. Et chaque fois je lui ai repoussé comme ça, maintenant que j'ai bar mitzvah, je peux dire, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a repoussé son Yetzara, il ne lui a pas écouté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas, selon la halakha, il n'a pas le droit de l'écouter. Mais ça c'est très rare. C'est vraiment des tzadikim qui peuvent faire ça. Mais sinon, jusqu'à la bar mitzvah, tu es seul. Bon, regardez maintenant, le Rabbi Nishraï rapporte, à propos des pensées, des gens se font de, tu sais, surtout aujourd'hui des jeunes. Vous savez c'est quoi? Le jeune ne pense pas seulement aujourd'hui pour faire des règles de péché, non. Il y a des gens, des jeunes, la plupart des jeunes, qu'est-ce qu'ils cherchent? À faire une situation. Tu veux devenir un grand businessman, tu ouvres une compagnie de jeans, de t-shirts, chacun son côté. Tu vois Buffalo Jeans, tu vois Levi's, tu vois, chacun il a réussi. Toi aussi, tu veux devenir un star. Alors, toute la journée, tu penses, qu'est-ce que je vais faire ça, Tu, peut-être les ordinateurs, Internet. Chacun, tu écoutes, tu as droit, pas de problème. Mais tu te fais des imaginations. Le Rabbi Nishraï, il a un bon machal que vous allez comprendre tout de suite, qu'est-ce à voir avec ça. Le Rabbi Nishraï, il dit, il y avait quelqu'un, qui n'avait pas beaucoup de panassa. Qu'est-ce qu'il avait comme, comment il nourrissait sa famille? Il vendait des œufs. Il achetait des œufs dans le marché. Et il sortait, il vendait les œufs. Mais il faisait des sous. Vraiment, il faisait des sous. Mais au moins, il avait quoi acheter? Du pain, du lait, du beurre, un peu quoi manger. Des fois pour Shabbat, de la viande. Et après plusieurs années, il s'est dit, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je peux pas rester comme ça. Il faut que je devienne grossiste. Il faut que je devienne un magasin, une chaîne de magasins, Loblaws, IGA, tout ça. Il faut. Alors il commençait à penser. Alors il est parti au marché, il achetait des œufs. Il achète des œufs. Maintenant, comment il transportait les œufs? Il avait 100 œufs qu'il transportait sur sa tête. Alors comment? Il mettait ça dans des petites boîtes. C'est ça, comme une boîte des œufs, une part dessus l'autre, une part dessus, et il marchait comme ça, il faisait très attention de ne pas pencher à gauche, à droite, il marchait comme ça. Un jour, il marche comme ça, il pense jusqu'à quand Hachem, je vais devenir un homme de business, tu sais. Là, il a une petite idée. Tu sais quoi? J'ai une idée. Au lieu de prendre le 100 œufs que j'ai maintenant sur la tête et vendre, attends, je vais acheter 3-4 poulets. Je vais l'emmener chez moi. Je vais prendre les œufs, je vais les mettre dans un poulailler. Et je vais prendre les poulets, les poules, et je vais dire aux poules, asseyez-vous sur les œufs. Et va commencer à s'asseoir sur les œufs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et de chaque œuf, va sortir un petit poussin. Petit poussin comme ça. Et ça va commencer à rouler. Au lieu d'avoir des œufs, j'aurai déjà des poussins. Écoute, parmi les poussins, il y aura des poules, il y aura des coqs. Là, les poules vont me donner 2 œufs, et le coq, je vais les vendre. Alors déjà, quand je commence un business, j'ai des poules qui me donnent 2 œufs. Je vends 2 œufs et en plus, je vends des coques. Et là, il y a le roulement. Ça commence à rouler. Écoute, une fois que ça va commencer à rouler, je vais faire un peu d'argent. Avec un peu d'argent, je vais acheter des chèvres ou des moutons. Là, du lait. J'ai du lait, du chèvre. Des moutons, je vais tendre la laine. Je vais commencer à vendre la laine, tout ça. Et le roulement va commencer. Ça va commencer à rouler, ça va commencer. J'estime, dans un an, je vais commencer à devenir quelqu'un d'important. Et là, il s'est fait des plans. Tu sais, moi, je compte dans 5 ans, je vais être tellement important que le pacha de la ville va m'inviter pour me voir qui je suis, l'homme le plus important dans la ville. Ça. Mais là, lui, il n'est pas habitué de voir un pacha, tout ça. Mais je sais que quand tu vas chez un pacha, tu dois te prosterner. Et voilà, il s'imagine, je rentre chez le pacha. Et je me prosterne, Sa Majesté, et voilà, il fait ça, et tous les œufs tombent, il se casse, et lui, il se réveille dans son rêve. Qu'est-ce qu'il trouve devant lui? 2 œufs cassés.
Non, des omelettes.
Des omelettes. Même pas des omelettes. Il peut même pas faire des omelettes maintenant. Voilà, dit le Rav Ben Israël, qu'est-ce qui arrive avec des rêves? Tu penses. Rabot Mahashavot Belevich. Vatzat Hashem Hitakum, tu peux penser autant que tu veux. Hashem, c'est lui qui planifie pour toi. Mais au moins, qu'est-ce que tu penses sera pur. Ne te fais pas trop dépenser. Tu penses sur une fille. Tu as vu une belle fille, tu penses. À la fin, tu trouves que cette fille est déjà engagée avec quelqu'un. Pourquoi tu as pensé toute la nuit sur cette fille? Qu'est-ce que t'as donné? Que Dieu t'aura. Et après tu vas à une autre, tu vas à une non-juive, est-ce qu'il va penser sur elle? Tu vas après une qui est mineure, elle n'a même pas bat mitzvah, et tu vas une femme mariée, ah elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est mariée, qu'est-ce que tu as pensé sur elle? Mais pourquoi tu te fais trop de pensées? Ça c'est le Etzara. Il te rend des pensées dans la tête qui sont règnes dans le monde de l'imagination, ils sont même pas réels, ils peuvent même pas se réaliser un jour. Ils vont jamais se réaliser. Mais entre-temps, il t'a impurifié la pensée. Et c'est ça que l'ange a essayé de faire à Yaakov. Il a essayé de lui impurifier la pensée. Toute la nuit, il lui a tourné la tête. Quand est-ce qu'il est Sarah? Quand est-ce que l'imagination la plus forte vient? Dans le soir, quand tu dors. Quand tu dors, c'est là que toutes les femmes et tout le jeu et tout ce que tu veux rentre dans la tête. En journée, tu n'as pas le temps parce que tu cours à gauche à droite pour t'apprendre à ça. Mais le soir, ta tête, elle se repose. Et là, Sarah, il rentre. Et c'est pour ça que le malach, il est venu la nuit. Pourquoi la Torah est venue la nuit? Il est venu comme un homme. Il est venu comme un ange. Il est rentré dans la pensée de Yaakov. Mais Yaakov, Vaïcher, Yaakov, Levado, il lui a pas donné la chance. Il a spiritualisé tout son corps, depuis la tête jusqu'aux orteils. Pas d'accès, monsieur. Je te donne pas l'accès. Tu peux dire n'importe ce que tu veux. Tu peux me donner quelle pensée que tu veux. Moi, je pense pas. Je ne suis pas rien. Mais là, vers le matin, il a trouvé, il y a un organe qui ne peut pas le faire. La Brit Mila. Parce que si tu rends la Brit Mila spirituelle, tu ne peux pas avoir 4 femmes, tu ne peux pas avoir 11 enfants, surtout qu'il attend un 12e. C'est ça? Tu ne peux pas? Il a touché là-bas. Ça, c'est un point sensible. Et ça, c'est le problème de la fin de génération. Tout ce que vous lisez à propos de Yaakov,